Vous écoutez RIG sur le 90.7, tout de suite votre magazine Santé et Société.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de RIG sur le 90.7, il est 11h17, vous nous écoutez peut-être sur le site internet de la radio, sur le www.rigfm.fr. Aujourd'hui, nous sommes dans Santé Société. Ce matin, je suis en compagnie d'invités que je reçois dans les studios avec grand plaisir, qui nous viennent de loin, hein, puisqu'ils viennent d'Allemagne. On va parler dans cette émission d'un projet européen, on va faire un petit peu d'autopromo, hein, un projet européen Grundvig que la radio mène avec différents partenaires de différentes radios communautaires de plusieurs pays européens. On va en parler donc avec Radio Flora, Axel et Mechthild. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Voilà, donc vous nous venez d'Allemagne, on va parler un petit peu de votre radio et du projet sur la thématique de la mémoire que vous montez dans le cadre de Grundvig. Nous allons également parler avec mon cher collègue Jérôme.
Bonjour.
Bonjour Jérôme, donc c'est toi au sein d'RIG qui a mené le projet sur le STO notamment, puisque le projet Grundvig, rappelons-le, est parti sur la thématique de la mémoire. Donc entre plusieurs radios, il y a des visites entre chaque radio sur différents thèmes et on parle donc des sujets qu'on va aborder dans nos propres pays sur notre propre histoire, l'histoire collective. Oui Axel.
Oui, je veux dire cette histoire, ce projet nous intéresse spécialement parce que ça concerne notre histoire aussi,
ouais,
comme le vôtre. Donc, ça sera un projet de reconstruction de mémoire.
Tout à fait.
Comme dit le titre, n'est-ce pas? Forgotten Memory,
History
Under Construction.
La mémoire oubliée, tout ouais, à fait. Et nous avons également dans les studios Monsieur Braun, qui est un ancien requis pour le service du travail obligatoire. Bonjour Monsieur Braun. Voilà, bonjour, il est là avec bonjour. Nous. Nous aurons l'occasion donc sur RIG de vous proposer donc une émission spéciale. On communiquera là-dessus bien sûr aussi. Là, on est un petit peu en direct, on est un petit peu, on verra comment ça va se passer. Mais on vous proposera une émission avec le témoignage de Monsieur Braun, donc l'un des anciens requis pour le service du travail obligatoire. Et on parlera donc également dans cette émission donc plus en détail du projet de la Radio Flora notamment sur les travailleurs forcés, les femmes travailleurs forcés. Peut-être qu'on peut commencer très rapidement. Vous venez de Radio Flora. Radio Flora, où est-ce que on peut la trouver? Quelles sont un petit peu les actions de votre radio? Quand est-ce qu'elle est née? Est-ce qu'en bloc, comme ça, vous pouvez nous envoyer quelques éléments sur Radio Flora?
Sur Radio Flora, spécialement maintenant? C'est-à-dire, nous sommes une radio libre, comme vous aussi. Et nous sommes intéressés à une communication un peu... qui ajoute des informations au mainstream médias, aux médias qu'on écoute tous les temps.
Tous les jours, ouais, donc en complément, ouais, en plus.
Oui, justement. Nous sommes indépendants parce que nous n'avons pas de pub. Et
ni de subvention.
Ni de subvention chez nous, justement, après avoir perdu la licence de notre gouvernement là, nous travaillons avec des bénévoles seulement. Et
alors combien de bénévoles au sein de la radio?
À peu près 100 bénévoles.
100 bénévoles, oui. Ouais.
Pour un nombre de d'émissions de 60 à peu près par mois régulières et avec de la musique spéciale, des émissions politiques, des émissions pour les femmes, des émissions surtout aussi pour des minorités.
Différentes langues. Dans différentes langues aussi.
Oui.
Et une radio militante, on peut dire, qui parle en effet de ceux qui n'ont pas toujours la voix, qui n'ont pas toujours le moyen de s'exprimer à l'antenne, en tout cas.
Exactement, c'est ça.
Notre motto est être la voix de ceux qui n'ont pas des voix, ne sont pas écoutés dans les mainstream médias.
Oui.
Donc on sait qu'en écoutant votre radio, Radio Flora, on peut trouver des informations, des éléments qu'on ne trouvera nulle part ailleurs.
Exactement, c'est ce que nous essayons de faire.
Donc cette radio, plus de 100 bénévoles, donc une soixantaine d'émissions mensuelles, donc un vrai fonctionnement. Il faut quand même savoir pour les auditeurs que le fonctionnement pour une radio allemande, une radio libre allemande, n'est pas du tout le même que pour une radio libre en France. Hein. Nous, ici en France, on a quand même cette liberté, puisqu'on a quand même des subventions qui arrivent, on a le fonds de soutien à l'expression radiophonique, on a quelques éléments comme ça qui nous permettent de survivre, en tout cas, de continuer à faire notre travail, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, à l'étranger, pour les radios communautaires, on peut dire qu'ici en France, mine de rien, hein, dans ce temps de crise, on est plutôt bien lotis là-dessus. Vous, vous n'avez pas ces possibilités-là. Donc, pas de salariés, donc vraiment que des bénévoles très impliqués au sein de la radio.
C'est ça, mais ça.
La presse libre est donc un petit peu en péril.
Bon, nous avons eu aussi des subventions publiques avant, jusqu'à 2009, mais l'organisme des contrôles des radiodiffusions nous a quitté la licence de transmettre en FM. C'était pratiquement un jeu politique, un jeu, on peut dire, un peu censure.
Hein? Ils vous ont coupé la
maintenant,
radio.
Maintenant, nous seulement transmettons par Internet. Oui. Mmh. Mais il y a des autres radios non commerciales, locales, qui reçoivent
des subventions
estatales, mais beaucoup de contrôles estatales aussi, hein.
Oui.
Ils sont censurés, s'ils ont vu, d'une façon indirecte. C'est une sorte d'auto-censure, n'est-ce pas?
Donc là, aujourd'hui, vous avez été censuré. Est-ce que c'était parce que c'était une forme de pas de contre-pouvoir, peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas une forme de militantisme, et vous pensez que c'est dû à ça, cette censure, en partie ?
Oui.
Enfin, pour ça, et pour avoir une structure horizontale et pas clairement verticale, oui. Avec un chef, sinon
ce fonctionnement libre ne plaisait pas.
Démocratie de base, un peu.
Oui. Il y a des structures vraiment démocratiques chez nous, parce qu'il y a personne qui est payé et qui doit
pas de dirigeant, tout le monde amène ça,
justement, qui n'est pas, il y a personne qui soit autorisé à contrôler les autres, ouais. Nous pouvons travailler vraiment indépendamment.
Nous avons une assemblée mensuelle au mois et nous prendre des décisions.
Bon. Sur les sujets à traiter, etc., en fonction de vos émissions, alors.
Exactement.
Donc, une radio qu'on peut en effet écouter maintenant sur Internet. Peut-être que vous pouvez donner le nom du site de la radio.
C'est très facile. www.radioflora.de.
Voilà. Donc rendez-vous sur ce site. Donc des émissions dans plusieurs langues, hein, vous le disiez tout à l'heure. Et vous, alors tous les deux, donc Mechthild Dormund et Axel Kleineke, tous les deux, vous avez une émission aussi en commun, notamment une émission politique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu très très vite de cette émission ?
C'est une émission au cadre de la rédaction du Magazin International. Ce qui veut dire, on s'occupe de tous les sujets actuels, politiques et internationaux.
Donc vous recevez différentes personnes dans les studios et vous.
Oui, on reçoit des témoins, on reçoit des partenaires pour l'interview, c'est ça. On le fait aussi par téléphone, mais nous nous occupons aussi des sujets comme, par exemple, la crise dans l'Ukraine, et puis d'autres sujets. Mm-hmm. Donc, mais aussi des sujets historiques. Parce que nous avons aussi un spécialiste, un historien dans notre rédaction. Donc c'est une base assez large.
Et comment s'appelle votre émission ?
Magazine International.
Le Magazine International.
Oui.
OK, on peut trouver donc si on comprend l'allemand sur
et nous
site.
Parlons beaucoup de la crise, aussi de la crise économique et de ses conséquences sociaux, hein. En allemand et dans l'Europe, dans le grec.
Donc avec des contacts aussi au-delà de l'Allemagne alors.
Bon, ce sont des analyses des journaux, oui. Quelque chose, et quelques personnes qui habitent à Hanovre ou en Allemagne.
Ouais. Donc un travail d'investigation aussi, aller sur le terrain, prendre des informations auprès des gens. Vous faites aussi tout ça. On a pu le remarquer d'ailleurs, vous avez tout le temps le micro ici en France pour interviewer un petit peu tout le monde. Donc on voit un intérêt pour tout ce qui se passe autour de vous. Donc ça fait partie de votre job, hein. En France, on appelle ça la déformation professionnelle. Bon, donc voilà, donc sur votre radio, donc radioflora.de, à découvrir sur internet. On va revenir un petit peu donc au sujet Grundvig, hein, Grundvig, donc un projet sur la thématique de l'histoire, les oubliés de l'histoire, c'est la thématique que toutes les radios communautaires dont RIG, hein, ont décidé de créer et se retrouver sur ce thème commun. On peut peut-être donc parler avec toi, Jérôme, donc du projet qu'RIG a mené un petit peu dans ce cadre du projet Grundvig. Grundvig.
Effectivement, on est parti sur la thématique du service du travail obligatoire, une thématique qui était chère, on va dire, à l'instance dirigeante de la radio.
À Madame la Présidente.
Madame la Présidente, pour être plus précis, qui avait justement, de par son vécu, de la famille, notamment son père, qui a été requis au STO, et qui malheureusement n'est jamais revenu. Donc c'était un passif qu'elle avait sur son cœur et qu'elle a cherché à découvrir au fur et à mesure des années. Et cette année, moins ces deux dernières années, elle a eu plus d'informations et a pu notamment retrouver où a été enterré son père. Ce qu'elle a pu remarquer au fur et à mesure de ses recherches, c'est que les déportés du travail n'avaient pas de reconnaissance réelle en France. C'est-à-dire qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, quelque part après la reconstruction, aussi bien des murs que des âmes, on va dire, il y a eu quelque part une hiérarchie de la souffrance, ce qui fait que tous ceux qui ont pu vivre cette Seconde Guerre mondiale ont plus ou moins tiré, on va dire, le drap du lit sur leur histoire. Alors quand je parle de ces personnes, c'est souvent il y a eu, on va dire, trois catégories de personnes qui ont été déportées. Ce sont les prisonniers notamment de guerre, on a eu les déportés en camp de concentration, mais aussi les déportés du travail, ceux qui ont été requis pour justement aider à l'effort de guerre allemand. Sauf que voilà, c'était pas forcément de plein gré qu'ils y sont allés.
Tout ce n'était pas volontaire, loin de là, oui.
Voilà, il y a une première période, donc quand on revient sur l'histoire, une première période où les gens, donc on va dire la nation française de l'époque et la nation allemande appelaient à ce que des volontaires viennent travailler ou en Allemagne ou dans les pays annexés pour justement remplacer les hommes partis sur le front. En échange justement d'un retour des prisonniers. On va dire que si on regarde l'histoire, le contrat n'a pas vraiment été rempli de la part des autorités occupantes, c'est-à-dire que l'échange de prisonniers en échange de travailleurs n'a pas vraiment été fait. Ce qui fait que ça a amené sur les années suivantes, les trois années suivantes, sur des lois qui donnaient des chiffres dans le nombre de requis à fournir, en fait. Et de ce fait, y a un amalgame qui s'est fait entre les volontaires qui sont partis donc autour des années 40 et ce qu'on appelle après les classes 42, 43 et même la classe 41, qui eux ont été des requis, on va dire forcés, parce que du jour au lendemain, des jeunes à partir de 20 ans, que ce soit hommes et femmes, et il y a eu moins certes de femmes qui y sont allées, mais les femmes ont quand même été appelées, recevaient une convocation et devaient partir du jour au lendemain par train direction soit des champs d'agriculture, soit des usines, pour travailler le temps de l'occupation. Enfin, du moins, la plupart ont été libérés suite à l'arrivée des troupes américaines ou côté russe aussi. Du coup, quand on parle d'oublier l'histoire sur la thématique du service du travail obligatoire, ce sont plus de... Alors, dans les chiffres, je les ai plus trop là, mais c'est moins plus de 200 000 personnes en France, au moins... minimum qui...
Un peu plus, je crois, même.
Un peu plus, voilà, ouais. Ce sont 90 000 personnes qui sont en tout cas mortes sur leur lieu de travail, qui ont de faim, de maladie ou qui ont été fusillées. Et tous ceux qui sont revenus ont déjà eu beaucoup de difficultés à revenir parce que faut savoir que à ce moment-là, quand les troupes américaines ou russes sont arrivées pour, on va dire, détruire l'armée allemande. Dans leur progression, ils ont tout rasé quasiment. C'est-à-dire qu'ils bombardaient déjà les usines où il y avait des civils, et tout ce qui était chemin de transport a été totalement, on va dire, explosé, quoi. Ce qui fait qu'il y avait, voilà. Et quand les troupes passaient, généralement, ils faisaient un minimum de soins pour les civils présents, et après ils repartaient dans leur progression. Ce qui fait que les travailleurs ou les prisonniers restaient souvent sur place parce que ils ne savaient pas que la guerre était finie forcément. Ils avaient beau être libérés, ils sont pas tous repartis du coup. Donc beaucoup sont restés sur place. Donc quand vous avez pas d'approvisionnement, vous perdez du poids forcément. Sachant qu'après il y avait des maladies avec à cause des puces, donc il y avait le typhus aussi. Donc on pouvait mourir de maladie et de faim. Et ceux qui ont tenté l'aventure de rentrer chez eux, l'ont fait de leur propre, avec leur propre force, leurs propres moyens. Donc ils avaient presque plus rien, ils avaient que des guenilles sur eux quand ils n'avaient pas l'appui de la population sur place. Faut savoir que ils avaient beau être prisonniers, on va dire, requis pour le travail, mais sur place, ils étaient quand même plus ou moins bien accueillis par la population qui, elle, n'était pas forcément partie de l'armée ou du parti nazi. Donc du coup, souvent ils rentraient très dépités, en très mauvais état, et ils faisaient beaucoup de kilomètres à pied, soit dans la neige, soit sans chaussures, jusqu'à trouver un train qui les amène à une gare, qui d'une gare puisse les repartir vers la France notamment. Car les déportés du travail, c'était aussi bien des Autrichiens, des Polonais, même les Russes ont été requis au travail. Enfin, ce sont des prisonniers de guerre qui sont été transférés.
On sait combien au total il y a eu de personnes qui sont parties travailler en Allemagne.
Pour la France, c'est des chiffres, mais après, au niveau mondial, faut rechercher un petit peu plus.
Il n'y a pas beaucoup de données aussi, ça, tu t'en as rendu compte aussi au fur et à mesure de tes recherches, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, pas beaucoup de...
Ça vient petit à petit, c'est-à-dire qu'il y a encore des dossiers qui sont, notamment en France, avec un secret ou un tabou sur certains dossiers qui ne sont pas encore déclassifiés. Ce qui fait qu'on n'a pas accès à toutes les informations parce que c'est sensible. Parce que sous l'occupation, certaines familles françaises se sont amusées avec l'occupant et du coup, ils ont mis une chape de plomb il y a quelques années pour que justement les dossiers sortent petit à petit pour pas que les descendants de ces personnes qui ont
subissent
un retour de à la tempête, quoi. Et du coup. Toujours question oublier l'histoire, c'est qu'il a fallu au moins 20 ans, enfin dans les années 70, il a fallu attendre les années 70 pour que réellement il y ait un statut de déporté du travail qui soit créé, sachant on leur interdit le terme de requis, parce que voilà, comme ils ont travaillé pour la force allemande, ils n'avaient pas le droit de porter un nom de déporté, enfin c'est ça plutôt, on leur a interdit le terme de déporté, donc ils ont dû utiliser le terme de requis.
Ce qui est très dur, puisque ça veut dire que ils ont tout fait pour s'en sortir, et au final, en rentrant en France, il n'y a pas eu de statut, il n'y a eu aucune reconnaissance de tous ces travailleurs forcés qui n'ont pas tous été volontaires, loin de là. Même aujourd'hui, donc Monsieur Braun fait partie d'une association, donc justement des travailleurs forcés. Ils ont un fanzine, un journal qui s'appelle justement Le Proscrit. Donc c'est quand même un nom qui est assez révélateur de cette de tout cet état d'esprit, je pense. Peut-être que vous voulez, Monsieur Braun, dire un petit mot sur votre association et sur le journal Le Proscrit.
Eh bien, notre association, dans chaque département, bien sûr, il y a une association. Moi, je suis président départemental dans la Gironde. Il y a certaines maintenant, parce que il y a beaucoup qui disparaissent. Il y a certaines associations en France qui disparaissent. Mais alors, notre association, en Gironde, avec l'âge, puisque nous avons au minimum 90 ans, au minimum, Il n'en reste plus beaucoup, à tel point qu'en Gironde, nous sommes plus que, enfin, des cotisants, 123 membres en Gironde. Il y a des départements où il y en a encore moins. Alors, nous avons un journal qui s'appelait le DT dans le temps, le Déporté du Travail. Bon, il nous a fallu changer le titre en mettant proscrit. Ben, proscrit, ça veut dire beaucoup de choses. Proscrit, effectivement, nous sommes un peu considérés comme des parias parce que nous avons travaillé pour l'ennemi, mais en réalité, mais les sabotages et autre chose ne se comptaient pas en Allemagne. Ça, on n'en a jamais beaucoup parlé. On parle de résistance, mais la résistance... Moi-même, le 11 novembre 1940, avec des lycéens et étudiants, nous avons voulu déposer une gerbe à l'Arc de Triomphe. Et la police française nous a empêchés. Et ensuite, les troupes allemandes sont arrivées. Alors, je ne sais pas, j'ai pas vu, mais je ne sais pas si la gerbe a été déposée, mais on s'est sauvés comme des lapins. Alors ça, c'était déjà un premier acte de résistance. Alors, au point de vue association, bon, nous avons ce proscrit.
Et ce journal, le proscrit, où est-ce qu'on peut le trouver?
C'est un journal qui est national. Ah. Et alors, chacun apporte son témoignage. Moi-même, dans le numéro, je sais plus combien, 62, j'avais apporté mon témoignage, et il y en a d'autres qui ont apporté des témoignages. Je crois que dans les prochains, il y a des témoignages exceptionnels, paraît-il.
Où est-ce qu'on le trouve, votre journal, Monsieur Braun?
Pardon?
Où est-ce qu'on le trouve?
On ne le trouve pas.
Ce sont que les adhérents. D'accord.
Ce sont que les adhérents.
Mais c'est important de faire ce genre de journal. Ça permet justement de laisser aussi, de garder la mémoire, de sauvegarder cette mémoire.
Absolument, oui. Et,
pour les générations
et
à venir.
On voit certaines choses. Je ne sais pas dans celui qui est ici.
On en a un, voilà, sur la table, donc le proscrit.
Je ne sais pas. Il y a peut-être. Ça, c'est le numéro 66.
En tout cas, il y a des témoignages de travailleurs forcés chacun. Oui.
Beaucoup qui apportent. Moi, j'en reçois quelques-uns en supplément. Alors, je ne. En supplément, je ne sais pas trop. Quoi en faire, parce que ça n'intéresse plus les jeunes, même mes enfants en ont assez de m'entendre parler toujours des déportés du travail. Ma femme aussi commence à en avoir un peu assez, parce que elle a connu, puisque comme je le disais tout à l'heure, elle est d'origine allemande. Et 15 mois après mon retour, elle était une des jeunes filles allemandes qui m'ont soigné, qui m'ont nourri pour me remettre tant bien que mal sur les pieds pour rentrer en France. Eh bien, ma femme est d'origine allemande. Alors, elle connaît ce que nous avons subi et elle ne voudrait pas sans arrêt en entendre parler.
Alors, mais c'est quand même bien, parce que c'est vrai que je pense que Jérôme, toi, tu as pu t'en rendre compte au sein avec les lycéens. La mémoire sur le service du travail obligatoire, le STO, personne la maîtrise vraiment. Donc au moins vos petits-enfants et votre famille connaissent cet élément de l'histoire.
Ils connaissent cet élément d'histoire, mais ils ne veulent plus
en entendre parler.
C'est du passé. Il faut penser toujours à l'avenir. Alors, j'en ai tellement parlé, et des écrits, j'en ai fait des monstres, des tas et des tas de lettres Et on, alors, d'autant plus qu'on ne veut pas reconnaître le titre pour ceux qui ont été dans les camps disciplinaires, les AEL, les Arbeit Erziehungslager, camps de rééducation au travail. Personne, à part un, et encore celui-là, il a été en AEL et ensuite il est allé en camp de concentration. Alors lui, il a le titre, il a un titre de déporté politique. En réalité, c'était pas du tout ça.
Oui.
Mais moi, qui avec tous mes documents que j'ai montrés tout à l'heure
à Radio Flora, mais je t'ai dit Axel,
j'ai montré des originaux qui ont été pris dans les archives de la Société à la Libération, où il est bien dit que j'ai été conduit à la Gestapo le 20 mai 44 pour refus de travail, et j'ai montré également ma condamnation, l'original d'une lettre de la Gestapo envoyée à mon employeur qui donnait ma condamnation. Il y avait deux solutions, ou le Concentrationslager, c'est-à-dire le camp de concentration, ou l'Arbeit Erziehungslager. Le mot concentration, camp de concentration a été rayé, et il y avait la date de sortie qui était le 22 octobre 1944. En réalité, comme c'était un dimanche, je suis sorti que le 23. Donc plus de 5 mois d'internement. Alors j'ai la preuve que des dates d'arrestation et de sortie. J'ai le motif. Refus de travail, qui est un acte de résistance que le Conseil d'État, par deux fois, en 49 et en 52 ou 3, ont donné comme acte de résistance le refus de travail. Et donc j'ai toutes les indications. Et il y a un article, et un seul, du Code des pensions qui dit que je dois avoir le titre d'interné résistant. Alors j'avais fait une demande, mais il y a déjà longtemps, en 1993, pour avoir le titre.
Et donc c'est une demande qui est en attente encore aujourd'hui.
Alors j'ai eu une réponse, je crois, deux ans après, qui était un refus. Un refus, mais portant sur le titre « Interné et déporté résistant ». Or, ce titre n'existe pas dans le code des pensions. Et où il y a interné résistant ou déporté résistant. C'était l'article L273 de ce code qui donne interné résistant. Eh bien, c'est à croire que... alors, ils ont rejeté un titre qui n'existait pas. C'est passé, j'ai fait appel au tribunal administratif qui n'a même pas vérifié si le titre existait ou pas. Ils ont donné raison au ministère des anciens combattants.
Et aujourd'hui.
Alors j'ai fait de nouveau appel à la cour administrative d'appel. Eh bien, pareil, ils n'ont même pas vérifié si ça existait. Ah, il y a eu des bonnes palabres, des belles plaidoiries pour finalement confirmer leur rejet. Alors oui. Ils ont rejeté quelque chose qui n'existe pas. Alors, la demande que j'avais faite, bien, elle existe toujours. Puisque ça n'a jamais été refusé. Alors, j'ai fait une deuxième demande il y a quelques années. Eh bien, Là, c'est pareil, j'ai pas eu de réponse, malgré plusieurs
relances, plusieurs courriers.
J'ai écrit plusieurs fois. J'ai fait appel au président de la République, qui est intervenu auprès du ministère des Anciens Combattants. En réalité, c'est le secrétaire d'État aux Anciens Combattants et victimes de guerre. Qui s'occupe de ça. Eh bien, je viens de recevoir, il y a quelques jours, une lettre confirmant le rejet. Mais ils font toujours mention à la toute première décision.
Oui.
Or, c'est bidon.
C'est que, voilà, il y a un moment, il faut passer, en effet, à autre chose et prendre conscience de ce qui a véritablement été fait.
Je vais... Alors, ils veulent clore définitivement mon affaire, mais il faut que j'écrive, parce qu'ils demandent s'il y a quelque chose de nouveau. Mais, de nouveau, c'était une erreur monumentale de tous. Et encore, ils ont dit que c'était la commission des déportés du travail qui avait jugé ça. Or, dans cette commission, quand on regarde bien, elle est illégale, parce qu'il n'y avait que 3 déportés concentrationnaires. Les 7 autres, c'était des hauts fonctionnaires du ministère des Anciens Combattants.
Donc là, voilà, donc vous...
Qui auraient dû connaître, eux,
ce code et cette loi, tout à fait.
Le code des pensions. Ouais. Eh bien non, rien n'a fait. C'est à croire que ça a été fait volontairement, qu'on nous rejette comme des malpropres.
Voilà, et c'est ça qui a été dur, donc pour toutes les personnes, vous avez tout à fait souffert.
Moi qui ai manqué de mourir, j'ai pris une bombe en plein sur la figure, comme j'avais, c'était le...
De toute façon, Monsieur Brown, on va devoir couper, oui. Mais par contre, on ajoutera en effet votre histoire qui est très forte. Qui est une histoire très très forte. Le problème, c'est que le temps nous est compté. Donc on ajoutera et on vous le promet, parce que je pense que les auditeurs, comme nous tous autour de la table, on aimerait en savoir encore plus. Donc on mettra cette émission au total, donc sur le site internet de la radio, bien sûr. Oui. Il faut qu'on revienne un petit peu au sens premier. Merci pour votre témoignage. Vous avez été, je pense, il faut le dire, le premier point d'accroche en fait de Jérôme dans ses recherches. C'est vous qui avez permis aussi à Jérôme de rencontrer d'autres déportés du travail. Vous lui avez donné de tout un tas de documents que moi-même j'ai pu découvrir et qui sont très très forts, très touchants. Et voilà, c'est un petit peu grâce à ça que toi, Jérôme, tu as pu
mener
ton projet avec les jeunes.
L'idée pour la radio au départ, c'était de rencontrer justement ces requis qui soient encore vivants, justement pour collecter leur mémoire. Le but, vu qu'on travaille un peu sur l'Aquitaine, c'était d'en rencontrer sur différents départements de l'Aquitaine. Actuellement, nous sommes déjà au nombre de 10 témoignages. Et ce projet-là, en fait, on souhaitait aussi, dans le but...
Que vous trouverez bien sûr sur le site internet de la radio. Hein, on mettra tous ces témoignages.
Voilà. Il y a le blog qui est en place, c'est mémoire-du-sto.webly.com et dessus.
Et qu'on pourra trouver justement les documents de Monsieur Brown et autres.
En construction, mais il est effectivement commence à être rempli.
Il faut dire aussi que donc dans ce cadre-là, tu as organisé, puisque tu travailles avec les jeunes, hein, sur la mémoire du travail.
Pour compléter, tout à fait.
Tu as fait une conférence il y a 3 jours de cela.
Voilà.
Avec Monsieur Brown qui intervenait devant les jeunes.
Pour faire connaître.
Je voudrais dire que finalement, cette épreuve d'esclavage a fait quand même, il y a eu 650 déportés du travail, je ne parle pas des volontaires, ils ne sont pas de chez nous, il y avait quand même 650 000 Français qui sont partis. Oui, avec quelques femmes également, parce que ça avait été pour les femmes également, mais le maréchal Pétain a interdit que les femmes partent, et il y a certains préfets qui ont passé outre, et j'en ai connu deux femmes qui étaient donc avec moi, deux jeunes filles avec moi, qui étaient de la région de l'Est, dans les Vosges par là, qui étaient avec nous.
Et c'est justement d'ailleurs le sujet que Mechthild et Axel traitent au sein de Radio Flore. Flora pour Grundvig, justement, c'est les femmes déportées, elles. Donc on va en parler aussi rapidement, donc avant la fin de l'émission, on va se garder quelques minutes pour en discuter. Alors, voilà, mais je tilde peut-être du coup tout de suite faire une petite aparté là-dessus. Ah, monsieur Braun.
Je voulais terminer en disant que nous avons quand même eu 60 000 morts, 15 000 fusillés, pendus, ou quelques-uns décapités à l'arche. Voilà, voilà le triste bilan de cette épreuve d'esclavage. Voilà ce que j'avais à dire.
Merci pour ce témoignage,
merci
en tout cas.
Merci beaucoup. Ouais. À Nôvre, il y a une usine de pneumatiques et Continental. Et la Continental aussi a occuper la main de la force de travail
les pneus
forcés,
voilà.
et il y avait une camp de concentration dans le même territoire de l'usine à Hanover-Limmer. Il y avait un camp de concentration des femmes françaises et des femmes polonaises. Il y avait fondamentalement des résistantes françaises et de la sublévation de la révolte de Varsovie.
Mm-hmm. Varsovie.
Il était déporté et elles doivent travailler dans l'usine de faire des mascaras anti-gaz surtout dans Continental, et nous voulons rechercher sur ces femmes et
combien de femmes travaillaient
après 1000 femmes.
Il n'y avait que des femmes et dans le camp de concentration à côté de l'usine de pneumatiques.
Non, à
et
côté dans l'usine.
Oui, ouais.
Pratiquement dans le territoire. Et aussi, il y a des autres usines à Langenhagen, qui est aussi, il y avait des travailleurs forcés, femmes travailleurs. Et maintenant, s'agit de faire une mémorial pour ces femmes, parce que la compagnie, l'usine, ne s'occupe pas de tout, de son passé. Hein. Et il n'y a pas de reconnaissance des travail forcés. Il n'y a pas de
compensation.
Et il n'y a pas dans les chroniques de l'usine. Il n'y a pas de crire sur les travail forcés. Et nous voulons faire un mémorial. Il y a une initiative pour faire une mémorial pour ces femmes.
Et donc ça, c'est le projet que vous montez au sein de la radio pour Grundvig. Oui. Donc comment est-ce que là, vous l'avez pas encore vraiment mis en œuvre, il est en cours de construction, ce projet. Comment est-ce que vous pensez faire pour pouvoir avoir donc d'une part des témoignages? Quels sont les objectifs? Avoir des témoignages justement pour ce mémorial?
Il y a des témoignages, mais nous voulons aller à Oloron aussi pour visiter le camp de Gurs pour voir si c'est possible qu'il y a aussi des déportés des Gurs qui ont arrivé à Hanovre. Peut-être. Mm-hmm. Et nous voulons aussi documenter la position de cette usine, que c'est pas acceptable.
Hein? C'est surtout que l'usine...
C'est une compagnie transnationale avec beaucoup de pouvoir dans tout le monde. Il ne reconnaît son passé.
En fait, vous voulez faire pression sur l'usine pour qu'elle informe les gens.
Publier ouais. Cette scandale.
Qu'elle explique ce qui s'est passé, en fait, à l'époque. Et alors que là, on n'en parle pas du tout. C'est vraiment ça votre objectif. C'est permettre donc de sensibiliser la population à ce qu'il y avait aussi avant et prendre conscience que ce lieu est un lieu historique et pas seulement une usine de pneumatiques comme il se présente aujourd'hui. Et donc là, il y a une équipe de la radio qui est mobilisée, ou c'est tous les deux
Non, il y a une femme aussi. Il y a une initiative, non dans la radio, sinon dans la ville.
Dans la ville, d'accord. Ouais. Ouais. Donc vous suivez un peu ce mouvement-là.
Nous collaborons avec cette initiative.
Vous êtes les porte-parole de cette initiative. Ouais. en tant que radio.
on leur donne une voix, mais il faut dire que dans la région de Hanovre, il y avait partout des camps pour les travailleurs forcés.
C'est vraiment quand on regarde
les sources, c'est vraiment partout. Mais les gens, ils l'ignorent aujourd'hui. Personne n'en veut savoir.
Il y avait des travailleurs forcés dans les usines, dans le camp, dans l'agriculture et dans les églises. Dans les églises.
Et dans les églises, ouais.
Même ça.
Ouais, donc là, le reportage va être construit au fur et à mesure de vos visites ici et au camp de Gurs et le travail que vous menez donc en partenariat avec les structures à Hanovre. On pourra découvrir ce reportage sur votre site internet, certainement.
Oui, peut-être oui, après.
Ça, d'ici quelques temps, ça, on va laisser le temps au projet
de toute façon, de se construire.
On
le mettre comme podcast.
Merci beaucoup. On a peu de temps. C'est toujours assez réduit. On va devoir se quitter pour laisser le journal de Radio France Internationale prendre la main sur l'antenne de la radio RIG. On rappelle donc très rapidement que Jérôme de RIG donc, a travaillé sur le programme STO donc avec des jeunes lycéens pour les sensibiliser à tout ce qui s'est passé. Donc via la rencontre avec Monsieur Braun. Hein, c'est lui qui l'a aussi amené à rencontrer tout un tas de personnes. Monsieur Braun est intervenu devant les jeunes qui ont été absolument subjugués par ce témoignage. En tout cas, ce que j'en ai entendu dire. On remercie donc Monsieur Braun, bien sûr, pour ce beau témoignage et on vous fera une émission totale avec l'enregistrement qu'on a fait aussi à côté puisque là on avait peu de temps, donc ça pouvait être que frustrant. On vous remercie donc Mathilde Dormund et Axel Kleineke de Radio Flora d'être venu. On est ravis de vous avoir reçu ici au sein de la radio et donc on découvrira donc tout ce projet lié justement aux travailleuses forcées qui sont parties à Hanovre travailler dans cette usine de pneumatiques. On retrouvera tout ça sur votre site internet. On vous donne donc rendez-vous si vous comprenez un peu l'allemand ou d'autres langues parce qu'il y a plusieurs émissions dans plusieurs langues sur le site internet radioflora.be. Merci à tous, merci pour votre participation.
Merci à vous, merci à RIG.
On vous souhaite un excellent 29 mai à vous auditeurs et puis on se quitte dans 40 secondes, vous retrouvez le journal de Radio France Internationale. Excellente journée à tous et profitez un petit peu du soleil tant qu'il y en a. Au revoir.